Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
Saint Joseph, modèle d'éducateur, le pape a rendu hommage ce mercredi à l'époux de Marie au cours de l'audience générale, l'exemple d'un homme juste qui se laisse guider par la foi. Le pape qui recevait une délégation interreligieuse réunie ces jours-ci par le mouvement des Focolari. Nous entendrons une rabbin argentine et une bouddhiste au Sri Lanka. Dans ce magazine, nous reviendrons aussi sur ces nouvelles profanations d'églises en France, parmi lesquelles la basilique du Sacré-Cœur à Paris. Et nous entendrons un essayiste français qui reviendra sur l'emballage médiatique, un regard intéressant à quelques jours de voter. Soyez les bienvenus dans ce magazine. Tous mes vœux à tous les pères, c'est en ces termes que le pape François s'est adressé aux pères du monde entier en ce mercredi où était fêtée la Saint-Joseph, époux de Marie. Des vœux exprimés devant des dizaines de milliers de personnes réunies comme chaque mercredi place Saint-Pierre pour l'audience générale. Le pape François est ainsi revenu durant sa catéchèse sur la figure de Joseph comme modèle d'éducateur encore de nos jours. Hélène Destombes.
Regardons Saint Joseph comme le modèle de l'éducateur qui garde et accompagne Jésus sur son chemin de croissance en sagesse, en taille et en grâce. Comme dit l'évangile de Luc, ce sont là trois dimensions de l'éducation de Jésus, a souligné le pape. La première nous montre qu'avec Marie, Joseph a élevé Jésus de sorte que rien ne lui manque pour un développement sain. Une autre dimension est celle de la sagesse. Jésus en est rempli parce qu'il est le Fils de Dieu. Mais le Père Céleste, c'est servi de la collaboration de Joseph afin que son fils puisse grandir rempli de sagesse. Enfin, la dimension de la grâce. L'action éducative de Joseph, a précisé le pape François, consistait ici à seconder l'action de l'esprit dans le cœur et dans la vie de Jésus en union avec Marie. Joseph a éduqué Jésus d'abord par l'exemple, d'un homme juste qui se laisse guider par la foi et qui sait que le salut vient de Dieu, de son amour et de sa fidélité. Le pape a ainsi remercié tous les pères pour tout ce qu'ils font pour les jeunes, demandant que Saint Joseph les bénisse et les accompagne. Pour nos pères, prions ensemble, notre Père à tous, a conclu le Saint-Père.
Et avant de tenir son audience générale, le pape avait reçu les représentants de 8 religions différentes provenant d'une vingtaine de pays. Il représentait les 250 participants à la conférence Chiara et les religions, ensemble vers l'unité de la famille humaine, qui se tiendra ce jeudi à Rome. Ils sont réunis en hommage à Chiara Lubich, la fondatrice du mouvement des Focolari décédée il y a 6 ans. Le groupe interreligieux était accompagné par le cardinal Jean-Louis Torrent, le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Antonino Gallofaro est parti à la rencontre de quelques membres de cette délégation.
Le dialogue interreligieux, le pape François le promouvait déjà en Argentine, quand il était l'archevêque de Buenos Aires. Face à lui, le rabbin argentin Sylvie Nachemen.
Oui, nous vivons ensemble différentes religions, différentes croyances. Et le cardinal Bergoglio, maintenant pape, était un interlocuteur comme tous les autres lors de chaque événement interreligieux dans chacun de ses discours, il rappelait l'importance d'être ensemble, la cohabitation, la fraternité.
De nombreuses confessions se sont retrouvées à Buenos Aires dans un même lieu pour la messe en mémoire de Chiara Lubich il y a 6 ans, juste après sa mort. Sylvina Chemen.
Les chrétiens ont célébré la messe en présence de chaque rite, puis ensuite chaque religion a eu droit à une tribune, l'opportunité d'exprimer sa peine mais aussi son engagement envers Chiara Lubich, sa lumière et son chemin.
I sang a psalm in Hebrew in his pulpit.
À Rome, ce sont quelques 250 personnes de 8 religions différentes qui dialoguent ensemble depuis lundi. Ils représentent une vingtaine de pays et donc autant de réalités du dialogue interreligieux. Comme pour Chiemen, une sœur bouddhiste taïwanaise qui vit au Sri Lanka.
Comme je représente une branche du bouddhisme, ce n'est pas très facile, car une autre branche sri-lankaise a sa propre croyance. Ce n'est pas très facile de leur apporter mon message. J'essaie de promouvoir ce qu'on est en train de faire, un bouddhisme humaniste, un bouddhisme dans un monde humain. J'essaie de leur apporter ce message. On est aussi bouddhiste, nous avons le même Bouddha, les mêmes enseignements. Nos enseignements fondamentaux sont les mêmes.
Réunir autant de confessions est une première pour le mouvement des Focolari. Jusqu'à présent, les discussions étaient bilatérales, si l'on peut dire. Pour la première fois, pour les Focolari, une pluralité de traditions religieuses se retrouve ensemble au Vatican. avec donc son lot de difficultés. Le rabbin argentin Sylvina Chemen.
Il faut que je recommence à nouveau, encore et encore, car je ne sais rien des autres. C'est à nouveau une rencontre de discours, de belles paroles, d'évaluations superficielles sur le dialogue. Il faut entrer dans l'autre avec honnêteté, dignité, sincérité, mais aussi avec amour et fraternité. Il faut donc recommencer à nouveau, car nous avons compris qu'il y a beaucoup de préjudice envers l'autre. On n'a par exemple aucun contact avec les bouddhistes, avec les hindous, avec les sikhs. Pour nous, ce sont de nouveaux mondes, de nouveaux points de vue, de nouvelles croyances. C'est pour ça qu'il faut recommencer à nouveau, mais ensemble.
Le mouvement des Focolari a appelé à reprendre l'invitation de leur fondatrice, tourner toujours son regard vers tous les enfants du Père unique. Contribuer à la réalisation de l'unité du monde, que tous les hommes, frères et sœurs, donnent vie ensemble à la paix et à l'harmonie universelle, c'était justement le rêve, l'objectif de Kira Lubich, disparu en 2008.
Et pour plus de détails, je vous renvoie à notre site internet www.radiovaticana.va. Nous sommes très préoccupés par la situation du pays. C'est ce qu'indiquent des sources de l'église locale du Burundi, où la tension politique ne se calme pas après que les forces de l'ordre aient réprimé ces derniers jours des manifestants de l'opposition. Dans la nuit du 16 au 17 mars, un dirigeant de l'UPRONA, l'un des principaux partis burundais, a été légèrement blessé par l'explosion d'une grenade. Les tensions sont principalement liées à la tentative de l'actuel président Pierre Nkurunziza de modifier la constitution afin de pouvoir se représenter aux élections de 2015 et d'obtenir un troisième mandat. C'est ce que déclarent les sources de l'agence Fides, qui ne cite pas de nom pour des raisons de sécurité. La constitution actuelle, qui fait sien les accords de paix d'Arusha de 2000, prévoit en effet que le chef de l'État ne puisse être élu que pour deux mandats. L'opposition et la société civile manifestent actuellement leur contrariété à cette révision constitutionnelle, indique l'agence Fides. À l'autre bout du monde, au Nicaragua, le cardinal archevêque de Managua, José Leopoldo Berenes Solorzano, créé lors du dernier consistoire, a déclaré que l'Église catholique était prête au dialogue avec le président Daniel Ortega à partir du moment où ce dernier décidera de s'asseoir en compagnie des évêques de la conférence épiscopale nicaraguayenne. Le cardinal a fait cette déclaration dimanche dernier, le 16 mars, alors qu'il était joyeusement accueilli par des centaines de fidèles dans sa ville natale de Ticuantep. Le cardinal Solorzano qui a affirmé à cette occasion que les thèmes à traiter avec le président n'ont pas encore été définis. Les observateurs locaux au Nicaragua remarquent que depuis que l'archevêque de Managua a été créé cardinal, le président Ortega a démontré un intérêt particulier à parler avec l'Église. Il faut par ailleurs rappeler que les évêques de la conférence épiscopale du pays ont tenté depuis plus de 7 ans de dialoguer avec lui, mais jusqu'ici sans succès. Tant que nous n'aurons pas confirmation, nous ne pourrons rien préparer en ce qui concerne l'agenda du dialogue. Nous espérons que le président nous fera savoir le lieu et la date auxquelles nous rencontrer, a déclaré le cardinal archevêque de Managua. Une nouvelle attaque contre une église est à déplorer ce mercredi en France, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris, l'un des lieux les plus visités de la capitale. Ni Dieu, ni maître, ni État, feu aux chapelles, abat toute autorité. Tels sont les mots que l'on pouvait lire dans et devant la basilique, inscrits et tagués en rouge et noir. Les politiques de tous bords se sont empressés de condamner ce nouvel acte de vandalisme. Les deux candidates à l'élection municipale, la socialiste Anne Hidalgo et sa rivale de l'UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet, déplorant une profanation. De son côté, le maire de Paris, Bertrand Delanoë, a évoqué des dégradations inacceptables qui ne sont pas les premières et a assuré le curé, les paroissiens et l'ensemble des catholiques parisiens de tout son soutien. Les déclarations des politiques, on le sait, sont parfois empreintes d'un certain opportunisme électoral, surtout quelques jours avant les municipales. Elles ne doivent pas faire oublier que les dégradations de lieux de culte sont hélas devenues monnaie courante en France depuis plusieurs mois. C'est le cas de l'église Saint-Étienne de Brie-Comte-Robert, dans la région parisienne, dont les paroissiens sont encore sous le choc. Dans la nuit du dimanche 9 mars, le tabernacle contenant une vingtaine d'hosties consacrées a été volé. Le père Régis Évin, curé de la paroisse, revient sur les circonstances du vol et l'émotion suscitée par cet acte.
Donc le lundi 10 mars, l'un des prêtres de la paroisse est allé à l'église pour la célébration de la messe matinale. Cette messe a lieu dans une chapelle qui est attenante à l'église. Et en arrivant déjà dans la sacristie, il a vu tous les placards ouverts. Ensuite, en descendant dans la chapelle, il a constaté que le tabernacle avait été volé. En fait, donc pendant la nuit, des voleurs se sont introduits dans la chapelle en forçant deux portes. Et donc, ils ont passé vraisemblablement beaucoup de temps. On a ensuite vérifié que rien d'autre n'avait été volé. Et nous ne savons pas ce qu'ils recherchaient, mais ils n'ont rien pris d'autre dans la sacristie. Donc pour nous, il y a la profanation d'un lieu, de l'église en l'occurrence, et puis un vol, celui du tabernacle, et surtout le vol des hosties. Avec cette question qui se pose, est-ce qu'ils sont venus voler un objet de valeur, le tabernacle qui est du XVIIIe siècle, ou les hosties qui étaient présentes dans le tabernacle? Alors dans notre foi, nous sommes profondément touchés par ce vol lorsque c'est le corps du Christ qui est touché, c'est le cœur de notre foi, et nous sommes là maintenant dans cette question, cet étonnement, sans réponse. Et la seule réponse que l'on peut apporter, c'est celle de vouloir réparer pour l'outrage que le Christ a reçu à travers ce vol.
Et justement, vous avez donc prévu donc différents événements, notamment une messe de réparation.
Avec notre évêque, Monseigneur Damias, nous avons prévu une prière de réparation. Donc cette prière de réparation, elle peut se vivre soit avec le chemin de croix, que nous offrirons à cette intention vendredi, soit par un temps d'adoration dans l'église, vendredi soir. Et puis Monseigneur Damias a souhaité aussi venir célébrer une messe. En tant que telle, ce ne sera pas une messe de réparation telle que c'était prévu dans la liturgie, puisqu'il y a eu une effraction dans l'église, mais il n'y a pas une profanation du lieu consistant à dégrader le lieu. Mais on ne peut pas ne rien faire quand on sait que le Christ a été volé. Donc cette messe qu'il va célébrer, c'est une messe dans cet esprit de réparation par rapport au Christ qui a été outragé à travers sa présence réelle dans l'Eucharistie.
Et quelles ont été les réactions des paroissiens ?
Très choqués, au-delà même des paroissiens, sont les habitants de Brie qui ont découvert ce vol, parce que d'abord on n'a pas respecté un lieu qui est un lieu sacré, et la police d'ailleurs précise que ce sont des circonstances aggravantes. Et donc il y a le vol dans un lieu sacré, et ensuite le vol d'un objet de valeur, donc c'est le patrimoine, et surtout, et ce qui est le plus grave pour nous, c'est l'Eucharistie qui a été volée. Donc les paroissiens ont été très surpris de cette réalité, de ce vol, et ont beaucoup souffert. Et
est-ce que c'est la première fois qu'il arrive un tel événement donc dans votre paroisse ?
Oui, c'est la première fois qu'il y a un événement aussi grave. Il y a déjà eu quelquefois des vols de petits objets, comme on peut en trouver dans les églises, d'autant que notre église reste ouverte dans la journée. Mais c'est la première fois que l'on porte atteinte au sacrement de l'Eucharistie.
Et est-ce que vous avez remarqué ces temps-ci qu'il y a une augmentation des attaques contre des églises ?
Alors, j'ai pu le noter dans l'actualité, à travers les journaux, mais directement dans notre secteur ou sous notre diocèse, il n'y a pas eu d'attaque particulière contre les églises, ni de vol en plus ces derniers temps. Pour ce qui est des actes contre l'Église ou contre la foi chrétienne, on ne le note pas de manière particulière.
Et concernant donc le traitement en fait des informations concernant ces attaques, est-ce que selon vous il y a une différence de traitement ? Certains disent qu'on parle plus des attaques contre des synagogues ou des mosquées.
J'aurais pu le penser. En l'occurrence, j'ai été agréablement surpris de voir que les journaux régionaux se sont tout de suite penchés sur l'événement et l'ont relayé. Donc on ne peut pas dire que, en l'occurrence, rien n'a été dit. Peut-être que les quotidiens nationaux se font plus facilement l'écho de ce genre de faits divers quand il s'agit d'autres religions, parce qu'on va peut-être montrer les difficultés des minorités à s'insérer dans une société. Mais là, en l'occurrence, on a quand même eu les médias régionaux qui se sont penchés sur ce vol.
Et là, donc, il y a une enquête qui a été ouverte et depuis, vous n'avez pas d'autres informations, c'est toujours en cours.
Depuis que la plainte a été déposée, il n'y a pas eu d'autres informations. On avait photographié et pris les mesures de ce tabernacle, donc les informations ont été données à la police et tous les services compétents pour pouvoir l'identifier s'il devait être retrouvé.
Des propos recueillis par Audrey Radondi. Les événements enflent, occupent l'espace public, accaparent les commentaires, squattent les tribunes et donnent aussi l'occasion aux responsables politiques de s'afficher, eux qui sont une part souvent prépondérante du discours médiatique. Mais le concert des médias vire parfois à la cacophonie pour le téléspectateur, le lecteur ou l'auditeur. Prenons l'exemple de la France. Affaire Copé, puis affaire Buisson et enfin affaire Sarkozy. En moins d'une semaine, début mars, l'actualité de l'Hexagone a été rythmée par une succession de scandales qui ont monopolisé les médias, radio, télé, presse écrite et bien sûr réseaux sociaux. Des scandales dont on parle encore actuellement. Les séquences médiatiques se sont enchaînées impitoyablement, créant un véritable vacarme au risque de déboussoler le citoyen. Une situation problématique en période électorale. Le rythme accéléré de ces affaires et l'exploitation médiatique des acteurs politiques, de droite comme de gauche, conduisent à s'interroger. Y a-t-il encore de la place pour un véritable débat public dans nos démocraties? Quelle valeur a encore le discours des hommes politiques auprès de l'opinion publique? Les médias ont-ils transformé la parole politique? Autant de questions que nous avons posées à l'essayiste Christian Salmon, spécialiste des stratégies de communication.
C'est un moment à la fois navrant, et voire désespérant, et en même temps très intéressant, très significatif et d'une certaine manière exemplaire de ce qui se passe dans nos démocraties. À quoi a-t-on affaire? On a une semaine absolument impressionnante, succession de performances, puisque la semaine commence avec l'affaire Copé, où le président du principal parti de droite, l'UMP, est accusé d'avoir favorisé ses amis lors de la campagne de Nicolas Sarkozy. Cette affaire est balayée, écrasée, comme on dit en termes informatiques, par une autre affaire, qui est l'affaire Buisson. Lorsque intervient une troisième affaire, qui est l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy révélées par Le Monde. Eh bien, c'est là où c'est intéressant, parce qu'on voit comment fonctionne aujourd'hui la performance politique. Quand on est acculé de cette manière-là, eh bien, ce qu'il faut faire, tous les spin doctors vous le diront, c'est changer la conversation. Et si possible, retourner l'accusation, substituer l'accusation ou le soupçon qu'on subit en infligeant un soupçon à l'adversaire. Vous savez, Charles Pasqua déclarait: quand on est embêté par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire. Et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire. Jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. C'est exactement ce qui s'est passé.
Est-ce que cet enchaînement justement de séquences médiatiques, cet enchaînement accéléré, affaiblit encore un peu plus l'autorité et la fonction du politique aux yeux de l'opinion publique? Ou alors est-ce qu'elle est déjà totalement dévaluée, démonétisée?
La parole publique aujourd'hui est totalement démonétisée. Vous savez, les récits politiques, le storytelling, c'est un petit peu obéir aux mêmes lois que la monnaie. C'est-à-dire que l'inflation monétaire, eh bien, ça a un effet immédiat, c'est la perte de confiance dans la monnaie. Il en est de même pour les récits politiques. Lorsqu'il y a inflation narrative, lorsqu'il y a inflation de récits politiques qui se succèdent, vous voyez, avec cette rapidité performative, eh bien, c'est le crédit de la parole publique qui s'effondre. Et donc, c'est un discrédit. C'est une crise de croyance dans la politique qui se généralise.
Est-ce que, Christian Salmon, l'exploitation politicienne de tous ces faits, de toutes ces actualités, est plus forte qu'auparavant, au détriment des débats de fond, ou finalement, ça a toujours été une constante? C'est quand même un peu l'impression qu'on a, cette instrumentalisation.
Tout dépend de la période à laquelle on se réfère. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a là un effet de structure, un effet de système. Hein. Quel est ce système? Eh bien, c'est d'une part la politique néolibérale qui s'est installée depuis 30 ans et qui a désarmé peu à peu les hommes politiques. Vous savez, François Mitterrand disait « Je suis le dernier président, après moi il n'y aura que des comptables à cause de la mondialisation ». C'est-à-dire que les pouvoirs exécutifs perdent leurs attributions, leurs leviers, et donc vous avez les hommes politiques qui sont confrontés à une crise économique et financière sans précédent, sans avoir les moyens d'y répondre, parce que la souveraineté leur a un petit peu échappé. Des hommes d'État impuissants. De l'autre côté, vous avez des pouvoirs réels, les agences de notation, les fonctionnaires à Bruxelles, les multinationales, qui sont des sortes de pouvoirs sans visage. Hein. Donc d'un côté, on a des visages impuissants, et de l'autre, des pouvoirs sans visage. Mais que peuvent faire ces visages impuissants? Eh bien, ils se tournent vers les médias. Et c'est la deuxième chose qui est importante dans cette transformation de la scène politique, c'est l'apparition des chaînes d'infos en continu, parce qu'elles induisent des transformations au niveau des quotidiens, au niveau de la presse écrite, au niveau des radios. C'est-à-dire que le temps politique a été pulvérisé au profit d'une sorte de communication à la nanoseconde. Hein. Alors que, normalement, le temps de la délibération est un temps ralenti, qui demande justement des séances de discussion, des confrontations d'arguments, etc.
C'était l'essayiste Christian Salmon. Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.